Radio Clash, une émission réalisée par les jeunes de l'Entre-Liens. Et ouais, on a tous quelque chose à dire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Clash, l'émission de l'Entre-Lien, entièrement réalisée par l'élève de l'école Escale sur le site de l'Entre-Lien.
Aujourd'hui, nous consacrons notre émission au Japon et à sa culture. Le Japon, c'est un pays qui fascine l'Occident depuis des générations, un pays qui s'est ouvert sur le monde très tardivement vers la fin du 19e siècle et qui a su donc garder une culture authentique qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Et c'est sans doute de là que vient la fascination. Alors, qu'avons-nous au sommaire de l'émission, de cette émission de décembre, Mathias ?
Des chroniques, de la fiction, de la musique, et aussi nous aurons un invité en la personne de Timothée Guédon, qui est éditeur de manga chez Kana.
Super. Eh bien, je propose qu'on commence tout de suite avec le premier sujet. Et donc, le premier sujet, je pense que c'est notre ami Jules qui va introduire un petit peu les choses en nous situant un peu le Japon dans l'histoire. C'est ça, Jules ?
Oui, voilà.
Donc, tu as préparé une petite chronique sur l'histoire du Japon. Est-ce que tu pourrais nous dire, en quelques mots, comment se compose, en quelque sorte, l'histoire du Japon ?
Eh bien, voilà. Donc, le Japon, enfin, son histoire, elle se divise généralement en 13 périodes, 13 périodes marquantes.
Donc, le Japon, il est souvent représenté par les samouraïs. C'est un peu l'image qu'on a tous. Est-ce que c'est le seul point important de son histoire ? J'imagine que non.
Ben, c'est vrai que c'est un point très important qu'on connaît tous, et c'est un des plus marquants. Mais non, c'est pas le seul, il y en a tant d'autres. Et d'ailleurs, le Japon voit apparaître ses premières tribus en moins 13 000 et se modernise vers les alentours de l'an 550. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaît l'architecture, la sculpture, voire même l'écriture. Et très important, le bouddhisme, qui est encore de nos jours et d'actualité dans leur culture. Mais c'est seulement vers l'an 1085 qu'on peut voir apparaître du coup les différents clans de samouraïs qui s'opposent généralement.
Ok. Et qu'est-ce qui leur a donné alors tant d'importance à ces samouraïs ? Je reviens avec ça parce que c'est quand même très présent dans l'imaginaire.
Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les samouraïs au Japon et qu'on se demande un peu voilà, ce qui marque en fait, par leur présence dans la culture japonaise. Mais c'est vrai qu'ils ont fait partie de leur histoire sur des siècles. En fait, c'est une classe guerrière qui a dirigé le Japon pendant près de 700 ans, donc des années 1000 vers la fin du 19e siècle. Les samouraïs, du coup, respectaient des codes, ils avaient des principes. On parle beaucoup de la voie du samouraï, qui en fait s'appelle le Bushido, qui est un ensemble d'enseignements et de pensées. Il faut savoir que tous les samouraïs n'étaient pas rattachés à des clans. Certains s'organisaient seuls.
Ils étaient en solo, quoi.
Voilà.
Les samouraïs sans maître.
voilà, très bien, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, mais... Nous, on a l'habitude de voir les samouraïs avec leur katana. On connaît très bien ces longs sabres.
Ah oui.
Mais il faut savoir qu'ils avaient une quarantaine d'armes à leur disposition. Donc, ils savaient comment se préparer à faire la guerre. Et on les connaît d'ailleurs très bien via le cinéma, la BD ou les romans. Parce que la plupart du temps, pour représenter les nombreux combats historiques qu'ont fait les samouraïs, on connaît également très bien le harakiri, le rite samouraï.
C'est
qui est
une forme de suicide, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, le suicide. C'est lié au suicide par éventration.
C'est une question d'honneur, c'est ça, je pense.
Tout à fait.
Ok. Et qu'en est-il de ces guerres, justement ? Comment est-ce que le Japon s'est imposé militairement ?
C'est vrai que le Japon a été un pays marqué par ces guerres. C'était souvent les guerres civiles entre samouraïs, justement. Et puis, certains ont appris à utiliser d'autres techniques, à inventer, à faire naître, par exemple, les ninjas, qu'on connaît tous. Et c'est au XVIe siècle que les premiers contacts en dehors, avec d'autres civilisations venant d'Europe, mmh. avec l'entrée du christianisme notamment.
Okay.
Donc le Japon a su s'ouvrir, mais pas pour très longtemps, parce que la montée au pouvoir d'un chef de clan Tokugawa a finalement limité l'influence étrangère, exactement. Mmh. Ils ont interdit la religion du christianisme. Mmh. Mais ça non plus, c'est pas quelque chose qui a vraiment perduré, parce que les Américains ont pris la décision par eux-mêmes de forcer le passage vers le Japon. Ils ont ouvert les portes et ils ont fait de la puissance du Japon une grande puissance moderne qui forcément aussi mis fin au règne des samouraïs. Mais le Japon a su en tirer profit. D'ailleurs, le Japon a commencé à entreprendre une politique d'expansion territoriale. C'est en 1895 que le Japon l'emporte sur la Chine pour le contrôle de la Corée. C'est en 1905 que le Japon est victorieux de la Russie. Ils obtiennent d'ailleurs une partie de la Mandchourie et de l'île de Sakhalin. Ils acquièrent aussi d'autres territoires comme les îles Ryukyu ainsi que Taïwan.
Oui, voilà. Mais tu parles des liens entre les Américains et les Japonais. Il y a quand même un lien conflictuel à un moment donné.
Oui, on connaît tous. C'est la guerre 40-45. Effectivement, elle était marquée par la guerre du Pacifique, comme on l'appelle.
Où les Japonais faisaient partie des ennemis, quoi, pour les
Américains, oui. Mmh. C'est vrai qu'ils ont été, ils se sont opposés à de nombreuses nations. Et d'ailleurs, le nom de la guerre vient des nombreux conflits en fait qui ont eu lieu dans le Pacifique par les opérations militaires du Japon. Donc, en fait, les premiers conflits remontent jusqu'en 1931. Le Japon a du coup été en guerre pendant des années, et là-bas, on appelle le terme courant, quoi, pour nommer cette guerre, c'est pas plutôt la guerre du Pacifique, mais plutôt la guerre des 15 ans, quoi.
Okay.
Donc ils ont été en conflit pendant vraiment longtemps, et du coup leurs nombreux conflits, leurs nombreuses invasions amènent le Japon en 1941 à leur entrée en guerre en fait contre les Américains, les Australiens, aussi les Hollandais ou les Anglais. C'est à ce moment-là que commence la vraie guerre, on va dire. Mais le Japon commence avec succès cette guerre. Seulement, les Américains, par leur puissance et leur industrie, reprennent finalement le dessus, ouais, sur le Japon.
Et ça se clôture avec Hiroshima, Nagasaki,
voilà,
bien,
voilà,
qui a fait capituler le Japon. Et je vais pas te piéger, parce que je ne sais pas si tu as creusé un peu la question, mais qu'en est-il de l'empereur du Japon ? Est-ce qu'on parle, y a un an, c'est toujours d'actualité ?
Quand ils ont capitulé justement le Japon, il me semble que les Américains du coup ont pris le contrôle un peu du pays, mm-hmm. mais il me semble qu'ils leur ont laissé un peu mm-hmm. le pouvoir de l'empereur.
Okay.
Ouais, oui, l'empereur est resté en place et le Japon vient de changer d'empereur.
Oui, j'ai entendu ça il y a 2-3 semaines. Hein,
voilà,
comme ça.
Et du coup, mm-hmm. Au Japon, ils ont le calendrier qu'on connaît tous, mais ils ont aussi leur propre calendrier qui est basé sur les airs,
ouais,
et qui correspondent au règne d'un empereur. Donc là, nouvel empereur qui arrive en place et nouvelle ère pour le Japon.
Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Jules, pour cette petite mise en place historique.
Bonjour, Timothée. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour l'émission et nos auditeurs ?
Bonjour, donc je suis Timothée Guédon. Je travaille comme éditeur pour la maison d'édition Cana. Ça va faire une bonne douzaine d'années que je travaille dans la BD au sens large. Et ça va faire 6 ans que je suis à 100% de mon temps sur le catalogue Cana, donc dédié au manga.
Okay. J'aimerais vous demander, quels sont les plus grands consommateurs de manga en dehors du Japon ?
Alors, les premiers consommateurs de manga après le Japon sont les Français, devant les États-Unis. Voilà en gros le top 3 des consommateurs, des lecteurs de manga, Japon, France et États-Unis.
En tant qu'éditeur chez Cana, quelle est votre journée typique ?
C'est ça qui est bien dans ce boulot, c'est qu'il n'y a pas de journée typique.
On ne s'ennuie pas, en tout cas.
Voilà, on ne s'ennuie pas, il n'y a pas deux journées pareilles, mais ça commence généralement par les mails, puisque comme on a ce décalage horaire avec le Japon, généralement le matin, on a reçu des mails en provenance du Japon auxquels il faut répondre, si possible encore dans la matinée pour qu'ils aient le temps de les lire et qu'il y ait éventuellement de nouvelles réponses à arriver. Après, ça va être du repérage pour les prochaines séries qu'on va vouloir publier. Ça va être des réunions de présentation aux commerciaux qui vont présenter les titres aux libraires. Ça va être des réunions, participer à des festivals, donc réfléchir à des maquettes, se poser la question de tel titre japonais, nous, on va le publier en France, mais sous quel titre, comment on le traduit, qu'est-ce qui va être le plus pertinent. C'est plein de choses et c'est passionnant.
Je voulais demander encore une chose. En tant qu'éditeur chez Gana, qu'est-ce que vous prenez comme critère, principalement, comme manga ?
Alors, l'avantage du catalogue Kana, c'est qu'il est très, très généraliste. On a du manga pour tous les âges, pour tous les goûts. Donc, on peut aller dans plein de directions, que ce soit du shonen, donc action, aventure, plutôt pour les jeunes ados. On va avoir de la romance, plus pour le shoujo, mais on va avoir des titres adultes. On va avoir, par exemple, on parlait de l'histoire du Japon, on va avoir un seinen comme Zipang, qui est une uchronie autour de cette guerre du Pacifique, où c'est un bateau de l'armée de défense du Japon actuel qui est, lors d'une tempête, envoyé en pleine guerre du Pacifique. Donc on a différentes choses. Et donc après, c'est l'histoire. L'histoire doit nous plaire. Et évidemment, le graphisme, le dessin joue un rôle primordial parce que c'est la première porte d'entrée quand on feuillette un ouvrage.
Mais donc vous éditez exclusivement des mangas qui ont déjà été édités en langue japonaise ou en tout cas en langue étrangère. C'est de la traduction, c'est ça l'idée ? Ou est-ce qu'il y a aussi des auteurs qui vous éditez pour la première fois ?
Alors c'est principalement de la traduction. On va dire 95% de notre catalogue, c'est de la traduction en provenance du Japon. Après, on va avoir un peu de traduction qui va venir d'autres pays d'Asie comme la Chine, la Corée ou Taïwan. Et on a aussi un petit peu de création, soit directement avec des auteurs chinois ou japonais ou avec des auteurs européens, français principalement.
Quel est votre manga préféré ?
Oula, c'est dur à répondre.
Question piège. Question piège. Et je crois que ça change avec l'âge. Mais Dragon Ball a été pour moi un titre très important. C'est la première série que j'ai lue en entier et que j'ai lue 15 000 fois. Mais après, en grandissant et en découvrant toute la richesse du manga, un auteur comme Kazuo Kamimura, avec La Plaine du Kanto, est un titre que j'ai particulièrement apprécié, où l'histoire démarre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon vient de perdre la guerre et de capituler. Et on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui, suite au bombardement de Tokyo, est envoyé chez son grand-père à la campagne. Et on va le suivre de l'enfance jusqu'à l'âge adulte dans ce Japon qui vient de perdre la guerre jusqu'à la fin des années 70 et tous les bouleversements qui se passent au Japon avec l'arrivée des États-Unis, cette espèce de marche forcée vers le modernisme et comment on essaye de préserver à la fois la culture et la tradition japonaise tout en essayant de suivre l'évolution économique, industrielle de l'époque.
Pourquoi les mangas fonctionnent autant en France et en Belgique ?
Parce que c'est vrai qu'à la base, ça ne vient pas du tout de chez nous. Donc...
Non, et j'ai pas la réponse, j'ai des pistes d'explication. Déjà, la Belgique est un pays de bande dessinée. Et le manga, c'est juste un autre terme pour parler de bande dessinée, sauf que c'est de la bande dessinée qui vient du Japon. Donc le format est différent, la pagination est différente. Mais donc voilà, c'est quand même toujours ce rapport texte-image auquel la Belgique et la France sont habitués. Ils ont cette culture BD. Après, le succès du manga est sans doute lié aussi à un moment où la bande dessinée franco-belge avait un peu laissé tomber les œuvres pour enfants, adolescents, développant plus une production adulte, alors que le manga, lui, proposait voilà, des histoires pour ce public-là. À un prix de vente défiant toute concurrence. Donc quand on n'a pas beaucoup d'argent de poche, ça compte énormément. La narration du manga est plus dynamique, plus rythmée, ça va plus vite et en même temps, par moment...
C'est sans doute ça qui plaît aux jeunes, aux ados.
Oui, le rythme et par moment on étire les choses et on fait passer beaucoup plus les émotions que dans la bande dessinée franco-belge. Et c'est avant tout une bande dessinée d'émotion, le manga. Okay.
Pourriez-vous expliquer le lien qu'entretiennent les Japonais avec les mangas ?
Difficile de répondre à leur place.
Vaste question.
Comme aux États-Unis, comme en France, la bande dessinée au Japon se développe surtout après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un auteur majeur, Osamu Tezuka, qui utilise des techniques un peu prises du cinéma pour raconter ses histoires en manga, où il dynamise énormément les choses. Et donc, il lise du manga depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une production énorme. Il continue d'en lire toujours énormément. Et on lit du manga au Japon dès qu'on commence à lire, et on en lit encore alors qu'on est pensionné. Vraiment, tout le monde lit du manga au Japon.
Ok. Eh ben, un tout grand merci, Timothée et Mathias aussi, d'avoir mené cette interview. On va poursuivre. Timothée, vous restez bien sûr avec nous.
Avec plaisir.
Pour la suite de l'émission, parce que je suis sûr que vous aurez encore beaucoup de choses à dire. On va poursuivre avec le sujet suivant. Ben, on va continuer à parler de manga, en fait. Et on va écouter Sabrina qui nous a préparé une chronique sur le sujet des mangas. Je pense qu'elle nous parle des mangas qui, pour elle, ont fait l'histoire, les plus importants. On écoute ça.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques mangas qui ont été gravés dans l'histoire du manga. L'histoire se focalise sur les aventures d'un jeune robot, nommé Astro. Et une sélection de personnages apparaît tout au long des épisodes. Il est vu par son odeur comme un nouveau Pinocchio, car de base c'était un objet inanimé qui a été créé par un créateur qui est finalement devenu son père. Il est élevé dans une famille normale qui fait interface entre les deux cultures, des hommes et des machines.
Le professeur Hochet. C'est lui qui t'a mis ces bêtises dans la tête, petit frère. Si tu savais qui est ton véritable créateur.
Hein ? Mon véritable créateur ?
Nous sommes allés bien trop loin avec ces robots. S'ils sont de plus en plus forts, c'est grâce à leur Kokoro. Il faut les empêcher de nuire.
Excusez-moi, monsieur, mais tous les robots ne sont pas mauvais. Par exemple, sans l'intervention d'Astro...
Astro ? Je ne serais pas surpris qu'il se révèle finalement le pire d'entre eux. Qui peut dire comment il se servira de ses pouvoirs? L'urgence est de se débarrasser de tous les robots dotés de Kokoro et l'en faire autant pour les
ordinateurs. Ça suffit. Je peux dire que je connais Astro mieux que quiconque et je peux affirmer qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Ou du moins, je l'espère très fort.
Le manga est adapté en une série d'animation, Astro Boy bien évidemment, diffusée pour la première fois au Japon entre 1963 et 1966. Cette production de Mushi Productions, le studio de Tezuka, constitue la première série animée japonaise. une reprise en couleur produite par Tezuka Productions, Astro, le petit robot, est diffusée entre 1980 et 1981. Au Japon, bien évidemment, car c'est là qu'a été créé Astro. Une troisième adaptation, Astro Boy 2003, est diffusée entre 2003 et 2004. Par la suite, une nouvelle adaptation cinématographique sort en 1964. Et un film américain en 3D sort le 23 octobre 2009. C'est le premier manga que j'ai lu et que j'ai réellement apprécié, car je trouve son histoire très touchante, très émouvante et très riche en émotions.
Yabuki-kun wa samishiku nai no? 同じ年頃の若者が町に海に山に青春を謳歌しているというのに、矢吹君と来たら来る日も来る日も汗とワセリンと松ヤニの匂いが漂う薄暗いジムに閉じこもって縄跳びをしたり。
Le deuxième manga dont je vais vous parler est Ashita no Joe, qu'on pourrait traduire en français Le jour de demain. Est un manga dessiné par Tetsuya Shiba sur un scénario de Asao Takamori, alias Iki Kajiwara. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen, magazine entre janvier 1968 et mai 1973, et a été compilé en 20 tomes au 10 novembre 1993. Plusieurs rééditions du manga ont également vu le jour. La version française est éditée en intégralité dans une édition de luxe et de 13 volumes par Glénat. Le manga fut adapté deux fois en animé. En 1970, Ashita no Joe, 79 épisodes jamais diffusés en France. L'œuvre est aujourd'hui vue comme un manga culte et s'est vendue à plus de 16 millions d'exemplaires. Selon moi, le succès d'Ashita no Joe est dû au fait que ce manga est riche en émotions et que la morale de ce manga est que si tu veux, tu peux.
Pourquoi tu t'arrêtes? Ça ne va pas?
Dis, pourquoi je peux pas devenir comme toi? C'est pas juste.
Bah, qu'est-ce que tu entends par devenir comme moi?
Je voudrais bien être un super guerrier à avoir cette drôle de coiffure.
Oh! Mais... Mais on ne devient pas super guerrier d'un seul coup. Tu sais, petit frère, ça prend beaucoup de temps. Si tu veux devenir un super guerrier, il va falloir t'entraîner très sérieusement. Et c'est seulement après de longues années de gymnastique et de travail qu'on peut y arriver. Ah !
L'avant-dernier manga dont je vais vous parler, c'est bien sûr Dragon Ball, une grande légende dans le manga. Un voyage durant lequel on suit l'enfant de Saiyan et son nuage magique dans ses diverses quêtes et rencontres. Lors de la création de la série, Akira Toriyama travaille pour l'éditeur Shueisha. La prépublication de Dragon Ball débute le 20 novembre 1984. La prépublication de Dragon Ball débute le 20 novembre 1984. Le dernier et le plus récent de tous les mangas dont je vais vous parler est bien évidemment le grand et le plus connu One Piece. Luffy est un jeune garçon qui rêve de devenir le seigneur des pirates en trouvant le One Piece, le trésor ultime rassemblé par Cole Rugger, le seul pirate à avoir jamais porté le titre de seigneur des pirates. Si j'ai choisi de vous parler de One Piece, c'est parce que pour moi, c'est le meilleur des mangas parmi tous les mangas que j'ai pu lire. Du début jusqu'à la fin, Luffy est vraiment un garçon très courageux qui croit vraiment en ses rêves et qui persévère. Et l'histoire est vraiment magnifique. Voilà tout. J'espère que cette petite chronique vous a plu et que vous sachiez un petit peu plus sur les mangas dont je vous ai parlé. Au revoir.
Merci Sabrina pour cette chronique. Alors à présent, on va faire une première petite pause musicale et on va écouter, une pause musicale japonaise évidemment, on va écouter Kiari Pamiu, qui est un peu la Lady Gaga du Japon, si on peut dire. Et nous, on l'a découvert lors de notre visite, j'en profite pour faire la promotion, de l'exposition Cool Japan au MAS à Anvers. En tout cas, moi je l'ai découvert là parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui la connaissaient déjà. Et donc on va écouter le titre Pon Pon Pon, qui était un méga tube
il y a quelques années.
Et ça, effectivement,
ça
Vincent, le clip surtout m'a beaucoup marqué. Je vous suggère d'aller le voir sur YouTube. Voilà, on écoute ça tout de suite. Timothée, est-ce que tu as des réactions par rapport à la chronique de Sabrina sur le manga ?
Effectivement, elle a cité des titres importants,
incontournables
dans l'histoire du manga. Astro, bah voilà, c'est Tezuka, c'est lui qui met en place la grammaire du manga, qui fait qu'on accroche autant à ces histoires, que c'est dynamique, qu'on a de l'empathie avec les personnages. Astro a marqué énormément les Japonais, dont Urasawa, qui repart d'un épisode d'Astro qui était plutôt le robot le plus fort du monde, pour en décliner une espèce de spin-off. Des années plus tard, où voilà, c'était un manga qu'il avait lu gamin, qu'il avait marqué, il avait envie de se coltiner, se confronter à nouveau à ce maître. Donc Astro, incontournable. Ashita no Joe également, si je raconte pas de bêtises, il avait tellement marqué les lecteurs japonais qu'ils ont organisé un enterrement fictif du personnage. Enfin, voilà, ils ont vraiment emmené un cercueil jusqu'au cimetière avec le héros. Dragon Ball, bah voilà, je l'ai cité tout à l'heure comme un de mes mangas préférés. Et One Piece, oui, qui est le blockbuster absolu de ces dernières années. Même si en France, pour l'instant, parce que la série n'est toujours pas finie au Japon et donc a fortiori en France, Naruto a réussi à détrôner One Piece. Ah ouais. C'est une espèce d'exception culturelle. One Piece a toujours été numéro un au Japon, devant Naruto, alors qu'en France, Naruto a été pendant au moins 10 ans devant One Piece. Okay. Donc voilà, petite différence culturelle entre les deux pays.
C'est pas mal ça. Alors à présent, on va s'intéresser un petit peu aux mœurs japonaises, parce que la vie est très différente là-bas. Et il y a plusieurs jeunes de l'entre-lien qui ont préparé une petite fiction sur le sujet. Donc on écoute la fiction réalisée par Rosalie, Mariana, Claudia et Lily.
Ah, hier soir j'ai un peu regardé le quotidien des Japonais avant de prendre l'avion, et du coup là j'ai vu qu'ils se réveillent à 6h du matin.
Sérieux ? 6h du matin ?
Bah oui, là-bas la journée de travail commence à 8h30.
Et ils mangent quoi au petit déjeuner ?
Apparemment j'ai lu qu'ils mangent du poisson, des œufs, du riz.
Quoi ? Dégueulasse, mais je pourrais pas moi ça le matin, direct je vomis.
Après le petit déjeuner, faut courir pour prendre le train.
Ah ouais ?
Ouais, et on attend les transports en file indienne et il y a souvent beaucoup de monde.
Et combien de temps dure le trajet jusqu'à Paris ?
Ça peut durer jusqu'à 2 heures. Et évite de tomber malade d'ici là parce que c'est mal vu de se moucher dans les transports.
Ben quoi, c'est pas une chose que je peux contrôler quand même.
Alors au moins, évite de manger dans le train.
Bref, on m'a expliqué que pour dire bonjour, on ne serre pas la main. Une légère inclinaison de la tête suffit.
Non mais tu m'apprends rien.
Ok.
Et tu savais que pour le midi, les employés ramènent leur bento ?
Quoi, ils mangent des ramen ou leur bento ?
Mais non, ils ramènent leur bento, la boîte avec tous les compartiments.
Et il y a quoi dans un bento ?
Du riz, du poisson, des œufs.
Encore ? Eh bien, c'est pas très varié, hein, c'est toujours la même chose, quoi.
Oui, mais non, ils mangent plein de choses différentes, comme les yakitori, les sushis, les makis, les légumes sautés. Et si t'as oublié ton bento, tu peux bien sûr aller aux nombreux restaurants qu'on trouve à tous les coins de rue. Par contre, ne sois pas surprise, la plupart du temps, on mange seul, tourné vers la cuisine.
Oh, trop bien ! Et c'est pratique quand on en a marre de ses collègues, on doit pas se les farcir à la pause. Et après, le boulot, il se passe quoi ? On a le droit de boire un verre ?
Oui, si t'as 20 ans, mais tu peux être puni par la loi si tu bois dans la rue.
La bonne ambiance.
Yes, et sinon, il y a des restaurants traditionnels appelés izakaya, où la plupart des gens y vont après le taf.
Et du coup, on y mange quoi ? Ne me dis pas que c'est encore du poisson cru.
Non, pas forcément, il y a aussi beaucoup de nourriture traditionnelle.
S'il te plaît, dis-moi que la journée après, ça se termine.
Plus ou moins, parce qu'une fois rentrée, on doit encore préparer le bento du lendemain. Et la fin, hop, au lit.
Yes.
Oh yes, ils servent enfin le petit déjeuner. Je crève la dalle.
Bonjour mesdames, pour le petit déjeuner, nous vous proposons un ensemble de poisson cru.
Quoi ? C'est une blague ?
Voilà, merci les filles pour cette petite pause. Est-ce que, je pense Timothée, toi tu te rends quand même souvent au Japon pour ton travail. Est-ce qu'il y a des choses que tu reconnais là-dedans ?
Oui, plein de choses.
Le poisson cru.
Le poisson cru notamment, mais effectivement le petit déjeuner. On est habitué nous à manger du pain, du beurre, de la confiture, des cookies ou des viennoiseries. C'est pas du tout le cas au Japon. Donc ça, c'est pour moi qui suis très petit déjeuner, c'est toujours un peu un repas difficile. mais par contre, ouais, non, c'est on mange effectivement souvent du riz, c'est l'aliment de base et qui généralement clôture un repas, ça vous cale et ça vous tient pour toute la journée. Mais c'est la cuisine japonaise est délicieuse, très 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 variée,
ouais.
Et on peut manger beaucoup et ne pas ressortir de table en étant gonflé ou l'estomac super lourd. Donc c'est vraiment un régal à chaque fois d'aller au Japon et de manger là-bas. Le coup des mouchoirs, pour tous ceux qui...
T'as été piégé par ça ?
Oui, pour tous ceux qui vont au Japon, prenez vos mouchoirs avec vous. Là-bas, les mouchoirs qu'ils vendent sont très très fins. Et effectivement, on se mouche une fois dedans et on a plus dans les mains que dans le mouchoir. Donc vraiment un conseil, si vous allez au Japon, prenez vos mouchoirs avec vous. Même si effectivement, là-bas, ça ne se fait pas de se moucher en public. C'est pas dans leurs habitudes. Les horaires, évidemment, c'est quelque chose qu'on voit avec les...
Ils sont très à cheval sur les horaires ou c'est...
Ils sont très, très ponctuels. Ouais. On n'arrive pas en retard au Japon. On a même plutôt tendance à arriver en avance à un rendez-vous. C'est ça la norme. Ce n'est pas arriver à l'heure, c'est arriver en avance.
Okay.
Et au niveau des horaires, ouais, ils ont des journées très, 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 très longues. Que ce soit au niveau du boulot, effectivement, ils peuvent terminer très très tard, voire dans l'édition, des éditeurs passent des nuits blanches ou parce qu'ils doivent aller travailler avec un auteur sur un bouclage, etc. Mais même pour les enfants adolescents, il y a la journée d'école, mais il y a beaucoup de cours du soir, ce qui rallonge encore la journée. Et effectivement, les temps de transport en commun, ça leur fait des journées très très longues.
Moi, j'avais une petite question, Timothée. Est-ce que tu parles japonais ? Et alors, on m'a laissé entendre que quand on ne parlait pas le japonais là-bas, c'était un peu difficile. Même en anglais, ça peut être parfois compliqué.
Alors, ça peut être parfois compliqué, mais c'est... en tout cas, à Tokyo, il y a de plus en plus de japonais qui parlent anglais. Donc là, il y a quand même une évolution. Et non, je ne parle pas japonais. J'ai essayé à deux reprises d'apprendre le japonais, mais c'est vraiment... On retourne à l'école maternelle. Il n'y a aucune base commune avec le français. Donc, on apprend à lire, à écrire. Et je crois que passé un certain âge, c'est compliqué. Donc, vaut mieux attaquer le japonais de bonne heure. Et c'est surtout, faut le pratiquer très régulièrement parce qu'on oublie très, très vite ce qu'on a appris d'une leçon à l'autre. Donc, c'est vraiment un exercice quotidien.
Ok. Ben, on va retourner un petit peu un moment sur la thématique de la cuisine, puisque la cuisine japonaise c'est quelque chose, et on va écouter une petite création sonore que nous a préparé notre ami Julian. Et donc il s'est focalisé un peu sur l'univers gastronomique du Japon pour nous composer une balade sonore.
りと待ち合って。
お嬢さん。
老人はラーメン歴40年。これから僕にラーメンの正しい食べ方を伝授してくれるのだという。
先生、最初はスープからでしょうか、それとも麺からでしょうか。
最初はまずラーメンはよく鳴らす。丼分の全容をラーメンの湯気を吸い込みながらしみじみ鑑賞してください。スープの表面にキラキラと浮かぶ無数の油の玉、油に濡れて光るしなしく、早くもプロゴロと湿り始めたのに、浮きつ沈みつしている輪切りのネギたち、そして何よりもこれらの具の主役でありながらしっそりと控えめにその身を沈めている三枚の焼き豚。ではまず箸の先で、
悲しみを月の影。
Et voilà, c'était donc petite balade sonore proposée par Julianne, balade sonore au Japon, bien sûr. On a écouté ensuite Kyu Sakamoto, donc, qui est un chanteur et acteur japonais culte et qui est décédé là-bas dans un accident d'avion, et donc qui est devenu une légende au Japon. Et on l'écoutait avec son titre Sukiyaki, qui date de 1962. À présent, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, on va parler d'un grand maître de l'animé. On va parler de Miyazaki. J'ai toujours du mal à prononcer son nom. De Miyazaki et des studios Ghibli, c'est ça ? Et on écoute donc la chronique réalisée par Lily, Claudia, Rosalie et Mariana.
Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'Hayao Miyazaki. Né le 5 janvier 1941 à Tokyo, il est le cofondateur des studios Ghibli avec Isao Takahata. Il devient célèbre grâce à La Princesse Mononoké, sortie en 1997. Il est souvent comparé au Walt Disney japonais. Ses films regroupent la plupart du temps les mêmes thèmes qui sont la relation de l'humanité avec la nature, l'écologie et la technologie, et le pacifisme dans des mondes en guerre. Les personnages principaux sont souvent des jeunes filles ou femmes fortes et indépendantes. Les méchants ont des qualités qui les rendent moralement ambiguës, ce qui fait que nous pouvons nous identifier aux héros comme aux méchants.
Mononoke-hime
私を殺そうと狙い続けている。さんはどうする気だ。あの子も道連れにするつもりか。黙れ小僧。お前にあの娘の不幸が癒せるのか。母さん、ここでお別れです。私をお琴主様の目になりに行きます。
Les films les plus populaires sont Le Voyage de Chihiro, sorti en 2001. Mon voisin Totoro, 1988, Le Château ambulant, 2004, La Princesse Mononoké, 1997, et Le Château dans le ciel, 1986. Au lieu de vous parler d'un film qu'il a déjà fait, je vais vous parler d'un film qui va bientôt sortir, qui s'intitule How Do You Live, en français, Comment vivez-vous ? Cette œuvre sera inspirée d'un livre du même nom. Il a commencé ses travaux d'animation en juillet 2016, mais il sortira après les Jeux Olympiques de 2020. C'est un film d'aventure fantastique mettant en scène un garçon de 15 ans, nommé Kōperu, qui s'installe dans la maison de son oncle à la suite du décès de son père et entreprend un voyage de croissance spirituelle. À son rythme méticuleux, il n'est pas surprenant que Miyazaki ait eu besoin de 4 années supplémentaires, surtout sur un projet aussi personnel que celui-ci. En effet, Miyazaki réalise le nouveau film pour son petit-fils. C'est sa façon à lui de dire « Grand-père est en train de passer à l'autre monde, mais il laisse derrière lui ce film pour toi ».
Mais voilà, on a parlé de manga, on a parlé d'anime. Il manque quand même quelque chose d'assez emblématique pour parler de la culture contemporaine japonaise, c'est le jeu vidéo. Et c'est justement notre ami Adrien qui s'est chargé de préparer ce sujet sur les jeux vidéo. Alors, ce serait quoi, Adrien, le lien entre le jeu vidéo et le Japon ? Est-ce que c'est là que le jeu vidéo est né, en fait ? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr.
Alors, pas tout à fait. Les premiers programmes de jeux, dont celui qui sera considéré comme le premier vrai jeu vidéo, Space War, sont américains. Cependant, le Japon a largement influencé ce qu'est le média aujourd'hui. De nos jours, on peut dire que le jeu vidéo est une part très importante de la culture nippone et le Japon est une part importante de la scène de jeux vidéo mondial.
Mmh. Ok. Quelle fut la réaction des Japonais justement face à l'introduction des jeux vidéo au Japon dans leur vie?
Alors, l'un des premiers jeux d'arcade à apparaître au Japon, Space Invaders, a été un succès absolument colossal. Au point qu'il était monnaie courante de penser que Space Invader avait épuisé les stocks de pièces de 100 yens. Sa popularité a été aussi influencée par le film Star Wars qui est sorti quelques semaines plus tôt, avec son imagerie des aliens qui fascinait.
Ok, donc ça, on est au début des années 80, ça ?
C'est ça.
Ok. Et quelle est la différence entre les jeux japonais, en fait, et les jeux occidentaux ? C'est quoi la spécificité des jeux japonais ?
Tandis que les jeux occidentaux visent le réalisme, on peut citer Assassin's Creed, Call of Duty, Fallout, d'une certaine manière, les jeux vidéo japonais sont plus inspirés par les codes du manga et ne se restreignent pas vraiment aux lois du monde réel. On pourrait citer Dragon Quest, Xenoblade Chronicles, Nier.
Donc c'est plus fantaisiste, on pourrait dire ça, je crois.
Exactement.
Ok. Et est-ce que tu pourrais nous citer, en deux, trois mots, certains titres de jeux vidéo japonais incontournables? On a tous en tête, bien sûr, des personnages, mais ce serait quoi, selon toi, les incontournables?
Honnêtement, il y en a beaucoup trop pour tous les citer, alors je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est dans le style action RPG, c'est la série de The Legend of Zelda. Mm-hmm. Ça raconte l'histoire du héros de la prophétie et ses diverses réincarnations au cours duquel il se bat contre les forces du mal personnifiées par Ganon et doit sauver la princesse Zelda. C'est l'une des séries Nintendo les plus anciennes et qui a le plus évolué au cours du temps.
Mm-hmm. Ça existe encore aujourd'hui, Zelda ?
Oui. Il y a un titre qui est sorti il n'y a pas longtemps, Breath of the Wild.
Ah ben moi, j'y connais rien, je pose des bêtes questions, désolé.
Et le deuxième jeu dans la catégorie Visual Novel est Ace Attorney. Ça raconte l'histoire d'un avocat de la défense, Phoenix Wright, qui enquête sur divers crimes pour disculper son client et découvrir le véritable coupable derrière l'affaire. C'est une série rempli de personnages en couleur avec des retournements de situation qui fait que c'est une bonne première introduction à ce genre.
Ok, c'est marrant parce que là il a un nom, on lui donne un nom américain et j'ai remarqué que peut-être Timothée tu peux en dire quelque chose. Les Japonais, je ne sais pas ce que c'est des décisions commerciales, mais quand ils créent des jeux ou même parfois des mangas ou des animés, les personnages ont des apparences occidentales ou des noms parfois.
Oui, c'est sans doute dans leur approche, dans la façon de créer les personnages et les histoires. Ils imaginent dès le départ le rayonnement à l'international que peut avoir une série, que ce soit un jeu vidéo, un manga, un animé. Et donc, ils vont se poser la question, voilà, est-ce qu'on lui donne un titre anglais pour que ça fonctionne mieux à l'étranger?
Ok. Oui, on va parler aussi avec Mathias d'un genre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sous-genre ? Je ne sais pas.
Je pense que ce n'est pas un sous-genre, c'est juste que ce n'est pas la même.
Voilà. Mais donc, moi, je ne connaissais pas du tout, c'est les light novels. Tu peux nous expliquer alors, en quoi ça consiste ?
Les light novels est un style d'écriture consacré entre jeunes adultes principalement et adultes. Donc, c'est principalement...
Donc ça, c'est la cible, quoi.
Oui, c'est la cible. Mais l'écriture est faite de façon que ce soit dirigé vers les... c'est des dialogues, principalement.
Donc, il y a des illustrations ou c'est juste des...
Non, les light novels, c'est de l'écriture uniquement. Okay. Donc, c'est vraiment sous la forme de dialogue, comme je l'ai dit. Et en utilisant des paragraphes.
Parce que tu m'en as montré l'un ou l'autre, il y a quand même une couverture avec des dessins de style manga. Oui, donc, est-ce que c'est lié au manga ? Est-ce que c'est les...
C'est-à-dire que manga, animé et light novel sont liés d'une certaine façon parce que un light novel peut être transformé en manga ou en animé, sachant qu'il n'y a pas vraiment de début ou de fin. C'est-à-dire qu'il peut avoir un light novel qui va être transformé en manga, autant qu'il peut y avoir un manga qui peut être transformé en light novel, et ainsi de suite.
Mm-hmm. Est-ce que c'est exporté en dehors du Japon ? J'imagine que oui, puisque toi, je pense que tu en es assez, oui. t'en es un lecteur assidu.
Oui, c'est exporté en dehors du Japon. En France, c'est principalement l'éditeur Ofelb qui est spécialisé dans les light novels. Ça, il y en a d'autres évidemment dans d'autres pays, mais ici je me suis concentré sur la francophonie vu que c'est eux qui les exportent. Maintenant, si Timothée a d'autres...
Ah bah ouais. Est-ce que vous éditez des light novels chez Kana, Timothée ?
Oui, on en édite très peu, mais on en édite. Mais donc c'est lié, nous on édite ceux en lien avec Naruto.
Ok.
Voilà, comme on est l'éditeur du manga... et qu'au Japon, ils ont développé toute une série de light novels autour de cette licence, on s'est dit, bah, tiens, ça pourra plaire éventuellement aux fans de Naruto, sachant que l'intérêt de ces romans, c'est qu'ils développent des histoires qui ne sont pas... c'est pas une redite de ce qu'on trouve dans le manga. Donc c'est un plus à chaque fois par rapport à l'univers ou autour des personnages de Naruto. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup. Mm-hmm. Et aux États-Unis, par contre, le phénomène a l'air de prendre de l'ampleur.
Ça date de quand ? Est-ce que c'est aussi ancien que le manga ?
Non, je crois pas que ce soit aussi ancien. C'est arrivé après. Je suis pas spécialiste, donc j'ai pas de date en tête. En tout cas, c'est lié effectivement à cette histoire de cible où proposer une littérature en gros aux adolescents lecteurs de manga ou qui jouent aux jeux vidéo. Et effectivement, on retrouve ces codes sur les couvertures que tu signalais, où c'est des illustrations très proches de ce qui se fait en manga. Mmh. Voilà, c'est encore un énième support, une façon de continuer de faire vivre des licences et de proposer du contenu. Okay. Sous une autre forme au japonais.
Et bête question, Mathias, ça fait combien de pages un light novel ? Parce que light, on imagine que ça veut dire quoi ?
Ils sont organisés par chapitre, sachant qu'un chapitre fait environ... Ça dépend vraiment des light novels, mais généralement, c'est entre 40 et 50 pages un chapitre.
Ça, ouais.
Mais maintenant, évidemment, ça dépend vraiment du titre. Il y en a certains qui font sur une dizaine de pages, mais généralement, c'est entre 40 et 50 pages.
Donc un chapitre, ça veut dire d'une série, et après...
Les chapitres font partie de la série, mais ce n'est pas découpé comme les romans ici. Donc, par exemple, les chapitres, en fait, ça correspond à tout. Donc, il y a, par exemple, dans certains livres, plus de 1000 chapitres.
Okay,
donc,
ouais.
c'est pas vraiment la même façon.
Ok. Et rapidement, tu peux nous donner quelques titres, les meilleurs light novels que tu as lus, ceux que tu recommanderais aux auditeurs.
Moi, je recommanderais principalement ceux qui parlent de construction de royaume, parce que, déjà, ça parle de royaume, et puis ça montre le personnage qui évolue dans une échelle. Et c'est vraiment très intéressant. Maintenant, les meilleurs pour moi, c'est I Am a Monarch and A The King. Voilà.
Ok, super. Eh bien, un tout tout grand merci, Mathias, et un grand merci d'ailleurs à tout le monde. Notre émission touche déjà malheureusement à sa fin. Voilà, c'était super riche, plein de contenu. On se retrouve le mois prochain pour le prochain numéro donc, de Radio Clash. Et il me reste bien sûr à remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Vincent à la technique.
J'ai pas beaucoup parlé cette fois-ci. Donc,
non, mais
il y avait tellement de contenu.
Tu étais bien là.
Ouais.
Mariana, Lily, Mathias, Rosalie, Anouk. Jules, Adrien, Claudia et Sabrina. Et on remercie aussi bien évidemment notre invité du jour, Timothée Guédon de chez Kana. Merci d'être venu, Timothée.
Merci à vous. Et juste pour un petit peu de pub pour terminer,
oui.
Jules a introduit l'émission avec notamment le thème des samouraïs. Demain sort Samurai 8 chez Kana, la nouvelle série de l'auteur de Naruto.
Ah ben super, on y sera attentif. Merci à tous et à très bientôt.
Merci.
C'était Radio Clash.